with Ursula Meyer, who is the director of Home, as well as a very helpful translator named Orly, who's going to assist us during the course of this conversation. But Orly and Ursula, how are you both doing?
Very well, thank you.
I'm very well, thank you.
Now, first off, I must ask how you found this particular house and whether you had to consult some French transportation authority to get this particular freeway. What did you do for location scouting for something that was so essential to the movie? And I'm just curious if you had to broker any particular arrangements with any particular governmental agencies to get the cars, or maybe you could describe them.
L'installation, comment tu as trouvé la maison, l'endroit, quels accords vous avez dû signer avec des autorités locales, comment ça s'est passé pour trouver ce qui est le contexte du film?
Ben la maison, on l'a construite en fait, hein, donc le décor a été quasiment construit de A à Z. Ce qu'on cherchait comme point de départ, au fond, c'était une route large qui pouvait ressembler à une autoroute à l'abandon. Et donc au départ, on a cherché des autoroutes en construction. On a commencé dans les pays coproducteurs France, Suisse, Belgique. On a élargi Italie, Allemagne, Autriche, Angleterre, mais on a été même jusqu'au Québec en repérage. Et tu me dis, hein. Et donc, les problèmes des autoroutes en construction, c'est que très vite, elles étaient mises en fonction. En plus, souvent, il y avait des ponts d'autoroute et je voulais pas de pont. Je voulais un paysage assez désertique, assez abstrait et en même temps réaliste. Et souvent, le paysage n'était pas très intéressant. Et le problème aussi, c'est quand il y avait une portion d'autoroute qui était terminée, il y avait toujours des véhicules de chantier qui passaient devant. Donc, c'était impossible de tourner sur une autoroute dont les travaux étaient en construction. C'est impossible. Donc, on s'est rabattu sur les pistes d'aérodrome. Le problème des pistes d'aérodrome, c'est que souvent, le paysage est très moche, enfin, pas très intéressant. C'est une sorte de petite herbe rase, comme ça. Et le problème, c'est qu'elles sont trop courtes, les pistes d'aérodrome. Donc, nous, les voitures qu'on voit à l'écran, tous les véhicules, les camions, voitures, caravanes, motos, sont des vrais véhicules de figuration. Donc, c'est nous qui les avons amenés pour faire de la figuration. Or, ils roulent aussi vraiment à 120 à l'heure, parce que sinon, ça se voit à l'image. Donc, il fallait une distance de freinage pour que les véhicules puissent freiner. Et les pistes d'aérodrome étaient trop courtes, en fait. C'était un des gros problèmes, en dehors du fait que les paysages étaient vraiment inintéressants au possible. On sentait que ce n'était pas un vrai paysage. Donc, on désespérait beaucoup. Et au bout d'un moment, on a vraiment cherché dans toute l'Europe. Et on a trouvé, au fin fond de la Bulgarie, entre Sofia et Istanbul, vraiment complètement perdu, entre deux villages, une route une toute petite route de campagne qui s'élargissait sur 2,3 km et qui redevenait une petite route de campagne. Et ça a été élargi pour être une piste d'aérodrome, pour arroser, en fait, que les avions arrosaient les cultures aux alentours. Et cette piste ne servait plus. Donc il y avait toutes les qualités du décor qu'on cherchait. C'était une piste large qui pouvait être une autoroute. En plus, c'était un peu abandonné parce qu'elle ne servait plus. Il y avait quelques tramans, des chevaux qui passaient toutes les heures. Donc il n'y avait pas beaucoup de véhicules. Et donc, on pouvait aussi faire passer des vrais véhicules qui pouvaient freiner. Et le décor, le paysage avait la force d'un paysage américain, une force d'abstraction et en même temps était européen. Et c'était vraiment un décor idéal. Après, je continue. All
right. It was actually a lot of research. It was complicated to find that road. It was more than the house, it was the road that gave us a lot of work. We needed a large road, like an abandoned highway, and it was just extremely difficult to find because if we approach highways that were in construction, under construction, then they would quickly go into being open to the traffic. So it did not work. And then we looked around Europe. Firstly, the co-producing countries, France, Switzerland, and Belgium, and then other European countries. We went as far as Quebec, and it still didn't work. And actually, if you had constructions on the road anyway, you had construction trucks going by all the time. So eventually, we tried another option, which was airport tracks, landing tracks. And so the problem there was that the landscapes around them were absolutely ugly and uninteresting. I was looking for something that would look well and have this, at the same time, abstract but real looking quality to it. And we needed a road that would be long enough. You know, we couldn't have anything that was short, which was the case most of the time of airport tracks. because we had all these cars, approximately 300, with extras in them, driving them to create the traffic. And they did drive fast enough, like you do on a highway, like 90 miles an hour. So you needed a road that was long enough farther ahead so that they could brake and actually stop. So the place we found that road eventually was in Bulgaria, in a small place lost between Sofia and Istanbul. There was this smaller countryside road that was at one in a part of it was enlarged. Actually, it had been used for planes to land that were watering the lands. It was not used as such anymore, but you only had like horses or Trabant cars walking by, driving by here occasionally, and so that was perfect for us. We actually constructed it further, and this is what we used. And what was perfect is that around that one road, you had the kind of landscape that I was looking for, that had both a Western type of quality to it, like American meets European landscape.
Well, 300 extras and constant use of gas, that is a very expensive film. So I'm curious if this was why you needed to have like someone like Isabel in the lead, because you have a considerable financial investment with all that gas, constant driving around, 300 people driving the cars, renting all the cars. What happened here to get that kind of financing, or did you strike some sort of deal with somebody? Or?
La fin, j'ai pas compris. La fin, juste la fin.
Bah, comment tu as réussi à boucler le budget, en fait, ouais. Il imagine que ça a dû être assez coûteux. Et est-ce que la présence d'Isabelle Huppert a aidé à boucler ce budget?
C'est ça. Non, en fait, le film a plu sur scénario, vraiment, quoi. Le film était sélectionné à l'atelier du Festival de Cannes, à la Cinéfondation. Donc, c'est un endroit où ils mettent en valeur des projets de jeunes cinéastes, une quinzaine à peu près, du monde entier. Et c'est vrai que là, il y a eu un intérêt énorme pour le film, quoi. Donc, il y a eu, je pense, ça a accéléré le processus de financement du film. Et Isabelle Huppert n'était pas encore sur le projet. Je pense que ça a peut-être rassuré des gens, mais ça, c'est pas Isabelle Huppert qui a fait amener l'argent du tout. C'est vraiment le film et mes films d'avant. Parce que mon téléfilm que j'avais fait pour Arte, en fait, j'avais fait un téléfilm qui était aussi un New Directors, New Film, il y a quelques années, a vraiment eu un très grand succès dans le monde. Et je pense que ça a rassuré les financiers. Je pense que s'il n'y avait pas eu le téléfilm, je pense que j'aurais jamais eu l'argent pour faire Home. Je pense que c'est vraiment, c'est surtout ça qui a joué. Et voilà, c'est vrai qu'Isabelle Huppert, c'est une actrice aussi qui est très cinéma d'auteur, donc c'est pas quelqu'un qui va amener des foules de gens non plus dans les salles. Enfin, je pense pas que c'est qu'il y a des gens qui vraiment viennent pour voir un film avec Isabelle Huppert, mais c'est quand même quelqu'un qui est assez cinéma d'auteur quand même en France. Et par contre, je pense que ça a dû rassurer des financiers, ça j'en doute pas, quoi. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était vraiment le scénario, le script. Et mes films d'avant, quoi. Et surtout le téléfilm, parce que ça, c'était déjà un long métrage, même si c'était un film de télé, en fait.
Actually, what really helped this project to be done was the script and the success I got with it. It was really noticed, and it's what interested people. And from the point that it was presented to the industry, this is when the financing process accelerated before even Isabelle Huppert was involved in it. And the other thing that really helped is that my previous film that was done for a TV network, Arte, which was actually also selected at New Directors, New Films a few years ago, got enormous success and interest worldwide. And I got some respect that I gained with that one. Certainly, Isabelle Huppert probably reassured some of the investors when she got involved, but you know, she, even if she's known and respected and does have an audience following her, she's still very much linked to auteur cinema. She doesn't exactly drive huge crowds.
Well, I must ask about your devising of the scenario, because here you have a premise that is just real enough for us to buy it. We can possibly find the notion of a family living in an isolated house plausible. Simultaneously, though, you have this allegorical streak in your film The constant baptisms that we see involving the water and emerging naked out of the water and the like. I'm curious, to what degree did you want to stumble upon a scenario deliberately that fit the criteria of something that was both plausible and allegorical? Did the allegorical nature come from the sort of high concept premise of a house next to a highway? Or was it just the natural, intuitive, creative process of this particular premise? So what of this?
Il parle du fait que la famille du film a cette qualité à la fois très plausible, c'est une famille qu'on pourrait connaître, qui peut exister, mais il y a toute cette dimension allégorique, et notamment, il parlait en exemple du fait que il y a un aspect religieux, en tout cas l'eau est beaucoup utilisée comme s'il y avait des pratiques de baptême comme ça entre eux. Donc est-ce que ça c'est un équilibre qui a été recherché et travaillé entre ces deux dimensions, plausibles mais allégoriques?
Oui, alors tout à fait, c'est vrai que pour moi le film, la difficulté du film, c'était de faire un film, une fable mais réaliste. Et c'était toute la complexité de ce projet, en fait. Voilà. Je tenais vraiment à ce qu'on croie à cette histoire, qu'il soit réaliste, et en même temps qu'il y ait de l'allégorie dedans. Parce que c'est vrai, bon, l'eau, j'y avais pas pensé. Hein. Pour moi, c'est vraiment... parce que je crois que dans tous mes films, il y a beaucoup d'eau. Donc je ne sais pas pourquoi. Mais par contre, sur la force, enfin, pour moi, c'est un film sur une famille, sur le monde d'aujourd'hui, le monde contemporain, sur cette famille qui s'isole loin du monde et le monde les rattrape d'une façon extrêmement violente, bruyante, polluante. Et c'est vrai que ce qui était difficile, c'était ça, c'était vraiment l'équilibre qui a été vraiment travaillé. Par exemple, le côté fable, je voulais pas qu'on sache dans quel pays ça se passe, je voulais pas qu'on sache quand ça se passe, c'est un film contemporain, mais ça aurait pu être dans les années 80, et c'était extrêmement compliqué. Rien que le look de la maison qu'on a construit, on a mis 6 mois à trouver à quoi devait ressembler cette maison, pour qu'elle raconte pas on est en France, ou en Belgique, ou dans le Nord, ou dans le Sud, qu'on sache pas... aussi, voilà, il n'y a pas d'ordinateur dans les chambres des enfants, il n'y a pas tous les travaux sur les costumes, enfin, tous les accessoires. Et c'est vrai que tout ça a été extrêmement compliqué, je trouve, à créer. Et je fais une pause et puis je continuerai après.
To me, the whole difficulty of the film, indeed, was how to make it a realistic fable. It's really what I wanted to do, to make a fable that, but that one believes in. I wanted to describe today's world, a family in today's world that tries to isolate itself from the world, but that is being caught up by that external world in the end. That allegory with the water, actually, I didn't really see or intend it originally, the one you mentioned. And so, you know, when the world finds them and catches up to, with them, it's in a very noisy, invading and polluting way. Another difficulty in that is was to decide if we wanted to place it in a certain time or geography, and that we intently try to make it as blurry as possible, you know. We worked a lot on the design of the house so that it wouldn't exactly tell where and when it was. And other details such as, you know, you don't see computers or, you know, just the kind of things that would give much more details on the location and the time.
Ouais, et c'est juste continue. Et c'est vrai que le côté fable aussi et réaliste vient du fait que j'avais envie dans l'écriture que tout ce à quoi on s'attend dans le film n'arrive pas. Et c'est vrai qu'on se dit ce monde qui a un potentiel dramaturgique, cette autoroute. On peut imaginer que quelqu'un va tomber en panne, que le chat va se faire écraser, qu'il va y avoir un accident. Enfin, il y a des possibles d'histoires. Et au fond, je me suis dit, ce qui est le plus intéressant, c'est que ce monde reste un monde parallèle et que tout ce à quoi on s'attend ne va pas arriver. Et que le danger, au fond, ne va pas venir de l'autoroute, mais de la famille. Et qu'au fond, ce danger était déjà au sein de la famille dès le départ. Cette folie familiale était déjà là, latente. Et elle va se révéler avec l'ouverture de l'autoroute, la névrose familiale de cette famille à tendance fusionnelle qui va vraiment fusionner. Au lieu de rentrer dans le monde, ce qui serait la chose la plus sensée, au contraire, ils vont encore s'isoler encore plus du monde, ils vont s'emmurer, ils vont s'enterrer. Et c'est là où le film devient, je pense, une fable, mais en même temps réaliste, quoi. Voilà. Et je pense que cette côté fable réaliste dans l'écriture, c'est aussi cette volonté que ces deux mondes restent parallèles jusqu'à la fin et que cette autoroute soit
au fond une sorte d'écran sur lequel chaque personnage y projette ses angoisses, ses névroses, sa folie. Comme cette jeune fille qui a 13 ans, qui est convaincue que ses boutons d'acné, c'est la pollution de l'autoroute. Enfin, chaque personnage va y projeter des choses sur cette autoroute, voilà. Et c'est là où je crois que le film décolle dans quelque chose de plus allégorique.
You know, everything that you could expect to happen in the film does not. This was absolutely intended. You know, with what happens around the family and the traffic starting to happen, you can imagine all sorts of anecdotes or accidents happening. But this intentionally does not happen. And because I wanted the two worlds, the family's world and the external world, to remain next to one another and not really cross, you know? Another way to say that the danger was, if it was somewhere, it was already latent within the family from the start. Because it's a very, you know, it's a very possessive and very close and obsessive kind of family. And if something was going to turn wrong, it was because of what was already between them. You know, how they locked themselves up at the end. It's really something that maybe they were just going to have to do, you know? And but with these two worlds, their own world and the external world, remaining next to one another, and then they would use what's going on outside to explain and to explain obsessions that they had in their own minds. Yeah. And this is where it becomes really allegorical, actually.
Okay, so when you say that the conditions of the family were there from the start, this is a very interesting answer to me, because in the first 15 to 20 minutes of the film, before the highway itself becomes a character, we see the family in conditions of routine. They are bathing, they are sunbathing, they are doing very set tasks, and we have very little information about their relationship, and simultaneously their possessions are scattered across the highway and they're scattered everywhere. So if the conditions were there to begin with, is it a matter of this world, this family's world, essentially being compartmentalized, and I don't want to give away the movie, but almost cocooned into this house that creates these inner truths and the like, that it was your concern here to demonstrate that any family, no matter if they are by a highway or not by a highway, that essentially any family is going to react to an extraordinary condition along these lines, that this is really, the highway is kind of a moot point, because it is, as you say in this last answer, this separate world, this thing that creates a divide.
En fait, il reprend vraiment l'idée que tu as développée dans ta question, et il essaye d'identifier ce qui exactement est particulier à cette famille, le fait que il soit comme ça, très, tout soit compartimenté dans leur pratique, qui est déjà en préparation, cet aspect de cocon. Ils sont prêts à se séparer de quel que soit le contexte autour d'eux, en fait.
Ils sont prêts à...
Et à se renfermer en cocon, c'est ça. Ils fonctionnent déjà comme ça, ouais, dès le départ.
Oui, dès le début, c'est une famille qui est quand même, qui vit dans un drôle d'endroit, loin du monde, qui est une sorte de presqu'île qui va devenir une île. Et c'est vrai que c'est des gens qui ont, pour moi, qui ont vécu des choses difficiles avant. On a imaginé tout un passé avec Isabelle Huppert et Olivier Gourmet autour de cette mère fragile. Et on a même imaginé qu'elle s'était droguée, qu'elle était tombée dans la drogue, que lui l'avait pris, qu'ils étaient venus vivre loin du monde, qu'ils sont isolés. Et là, ils ont retrouvé un équilibre, un bonheur, mais seulement loin du monde. Et le monde va les rattraper, au fond. Mais c'est vrai que dès le départ, c'est une famille qui a décidé quand même de s'isoler du monde. Et c'est la seule façon de pouvoir vivre, pour eux, d'être heureux. Voilà. Et en même temps, c'est une sorte de paradis terrestre au départ. Hein. J'avais vraiment envie qu'on se dise, au fond, c'est pas si idiot d'habiter là, puis ils sont bien. Et d'ailleurs, c'est déjà une famille bruyante. Au fond, le bruit est déjà là. Il y a du heavy metal, l'autre met sa radio. Il y a même un équilibre sonore qui est là. Mais quand l'autoroute arrive, le bruit, l'autoroute, déjà, même d'un point de vue sonore, ça se déséquilibre. Parce qu'elle met son heavy metal, elle met sa radio plus fort et ils n'arrivent plus à trouver un équilibre sonore avec le bruit de la voiture. Donc dès le départ, c'est une famille un peu en marge, loin du monde, mais heureuse. Et surtout qui a trouvé un équilibre là et seulement là.
Yeah, from the start, indeed, this is a family that lives kind of in a strange place. It's as if they have their little own peninsula that is going to become an island to really cut the bridge to the land, you know? And we had imagined all sorts of background stories to the main characters that could explain why they decided to isolate themselves from the world. You don't see necessarily of that in the film, but we did imagine with the actors what was their background. And they did decide to live in this sort of isolated place, really, but except that you really notice, and it's obvious from the beginning of the film, that it's a sort of earthly paradise for them. They're happy there. They have found a balance that suits them. And you know, it's a pretty noisy family already. You know, they're pretty noisy. There's all that music. They talk loud, but it's a noise balance. It's their own balance that they found, and it works with them. Meaning that when the road arrives, when the road becomes in function, the problem starts with the balance being shaken, because there's more noise. It's not only that there's noise, it's not their own noise, and there's this whole accumulation, and they just lose that equilibrium, that balance that they had found for themselves.
This is interesting because actually it makes me wonder about how set the environment was before you started thinking about the characters. Nabokov had this thing that he said in which he suggested that he could not write a novel or a story until he absolutely knew the topography. He absolutely knew the environment. So I'm curious as to how hard or austere you needed to know your territory before you knew the characters, or whether the territory changed as you recognized aspects of the characters, both in the writing process of this film and also in the production process as the house was very specific design decisions were made for the house and the like.
Tu as compris la citation de Nabokov ?
Non.
Il ne pouvait pas vraiment écrire tant qu'il n'avait pas complètement en tête l'environnement dans lequel évoluaient ses personnages. Donc il se demandait, à la fois dans ton processus d'écriture, mais ensuite, effectivement, pendant le tournage, où se situait, et notamment à quel point en amont se situait la définition de tout l'environnement, du contexte, mais visuel. Là, il parle de...
Non, c'est vrai. C'est, même le prochain film, je pars d'un décor, en fait. Par exemple, celui-là, c'est un film horizontal, et le prochain, c'est un film vertical. C'est entre le haut et le bas, entre la montagne et la vallée. Donc je pars souvent d'un espace. C'est pas vraiment une géographie, c'est un espace géographique mental, je dirais, parce que c'est ma seule façon de pouvoir filmer après le film. Mais je pars d'équilibre. Et en ce sens, je me sens assez proche de l'art contemporain ou dans mon processus d'écriture. Et après, je vais vraiment dans le réel. Hein. Je fais tout un travail journalistique. Moi-même, pour Home, j'ai rencontré énormément de gens qui habitaient le long de l'autoroute. J'allais sonner, je buvais des thés, les gens me racontaient leur vie, qu'est-ce que c'était de vivre avec une autoroute, ceux qui avaient vécu une ouverture d'autoroute, qu'est-ce que c'était. Enfin, après, il y a un rapport au réel qui est énormissime. Mais au départ, c'est vraiment un espèce de géographie mentale. C'est extrêmement important. J'ai besoin de cadrer, de me dire ça commence là, ça s'arrête là. Parce que je suis quelqu'un qui part dans tous les sens, donc j'ai besoin de me dire, comme quand, je sais pas, comme un jeu d'enfant, j'ai besoin de me dire, voilà, ça c'est mon terrain de jeu, je le limite, et là-dedans, je vais faire un film en profondeur, quoi. J'aime bien me limiter, me cadrer, me mettre des contraintes pour pouvoir créer.
So absolutely, this is very interesting, and actually my next film's first step is going to be a space, and as opposed to this one, which is... you can say or horizontal, the next one will be vertical, you know, like mountain versus valley. And indeed, you know, rather than a very specific location, it's sort of a psychological one. I have this space in my mind, and then I need to quickly go into concrete details, though, to make it real. For this film, I gathered a lot of testimonies from people who gave me a lot of information about how it was to live next to a road, etc. So really I need to set a sort of, have frontiers to my research, but then really dig deep into the details of something that's going to make my story really concrete, gather a lot of concrete information.
That's why, c'est pour ça que mes films, tous, sont très mentaux et très physiques en même temps. C'est très étrange. C'est vraiment des films très physiques, parce que pour moi, le cinéma, c'est filmer des corps avant tout. C'est quand même des corps à l'écran. Et en même temps, ils sont très mentaux. Mais ils sont très, c'est un drôle d'équilibre. C'est pas des films juste intellectuels ou juste physiques. C'est ce rapport des deux qui crée quelque chose d'assez étrange. Mais mon film d'avant, c'était sur une jeune athlète. Et c'était toute sa vie intérieure par rapport à la performance, au corps qui change. Parce que c'est une jeune adolescente qui fait du sport à haut niveau. Et son corps avait tendance à devenir masculin de par le sport. Et en même temps, c'était l'adolescence, donc son corps devenait féminin. Donc c'est tout ce qui se passait qui la travaillait. Donc c'était extrêmement physique. Même le film était en petite caméra vidéo, très physique. Et en même temps, c'était un film très mental. Et c'est vraiment, je pense, la singularité de mes films. C'est qu'ils sont à la fois très concrets, très réels. Et en même temps, ils sont dans des espaces mentaux complètement mentaux.
You know, this is what makes my my films somewhat particular. It's that mix of psychological and physical that's equally important on both sides. You know, I like to film bodies on the screen, but it's always with a very important psychological background. My previous film was about a young athlete, a woman. And what was going on in her mind as she witnessed her body change with all the, you know, it was high level, like professional sport. And she was also becoming a woman and her body was also changing because of that. And it was about the world of sport. It was extremely physical, but it was really also very much about what was going on in her mind about because of it. So it's that... I like to have my films being very concrete and real, but also there's this whole mental environment that's very important to them.
Yeah. Is there, though, a danger? You alluded to testimony in your last answer, and I'm wondering if there's a danger in having too many details at your disposal, that possibly the more detail you have, the more options you have, and sometimes if you want to be decisive as a filmmaker or as an artist, it's often quite advantageous to work from your gut or work from your intuition rather than have that gut be saturated by endless research. So how did you negotiate this dilemma, or is it even an issue with you?
Il reprend ton commentaire sur le fait que tu as eu beaucoup de témoignages pour avoir pas mal d'anecdotes et de détails. Mais il te demande comment tu, à un moment, tu mets le holà, en fait, parce que si tu as tellement d'informations, en fait, ça peut être un avantage de marcher plus à l'instinct, parce qu'à un moment, tu es débordé par toutes les informations que tu as récupérées, en fait.
Et de toute façon, je travaille énormément instinctivement, quoi. Ça veut dire que je peux mettre des mots maintenant dessus, mais je fais vraiment les choses à l'instinct, moi. Je suis très instinctive. Et en même temps, c'est vrai qu'au début, j'ai accumulé beaucoup, beaucoup d'idées, d'ailleurs, de scènes, de choses. Et le film, l'écriture a duré très longtemps, mais en fait, ce qui m'a pris du temps, c'est d'épurer. C'est d'enlever. J'ai fait que gommer, en fait, dans ce film. J'ai fait que gommer. Au fond, le film était déjà là du début, il fallait juste gommer. Et il y avait une phrase de Coris Maki dans mon dossier, d'Aki Coris Maki, qui disait qu'en gros, il faut... Je sais plus ce qu'il disait, mais en gros, il disait qu'il faut toujours enlever. Puis quand il reste l'essentiel, alors on est prêt à filmer, quoi. Et j'ai vraiment fait ça. J'ai fait que gommer dans mon film. Pour garder vraiment cette idée de... Et c'est là où le film devient une fable, en fait, c'est parce que j'ai gommé. Si j'avais pas gommé, ce serait devenu un film assez anecdotique, au fond. Au bord d'une autoroute, avec des petits gags, enfin, ça aurait pu être un film comme ça. Mais la force du film, je me suis bien rendu compte que c'était dans cette force du monde parallèle, et que cette autoroute reste un monde parallèle tout le temps, quoi. Enfin, voilà, c'était très tentant d'avoir des anecdotes avec, et je les ai pas mises pour finir, j'ai tout enlevé.
Actually, I use my instinct a lot in my work. It's just that now I can put words on it, but really I did use my instinct a lot, and it was an extremely long writing process actually, this script. I kept, at one point I started to cut from it, and I kept doing it. You know, I had in mind this, what Aki Coris Maki said about the fact that you have to take off a lot from your first drafts, and then when you're down to what's essential, you're ready to shoot. But this is what gives this quality of a fable to my film, because otherwise it could have been full of anecdotes. You know, this is why I kept myself from adding all these stories, that what could have happened to them with the road. I wanted really to separate that other world from their own. And this I managed because I did cut enough that I was able to reach that quality.
There's actually a very good novelist named Rupert Thompson who does the exact same thing, who you should read. He's very good. But one last question. This film had two particular figures that called out to me as I watched it, one being Guy Debord and the Situationists, because this is very much concerned with landscape. The other, of course, being Weekend and Godard. I'm curious to what degree these two major figures injected themselves in the course of devising or making this film, or whether you essentially shook them off and again went with this instinct that you described in your last answer.
It's really a question about cinematic references, right?
Well, c'est ça, Guy Debord.
It's a question of whether, Guy Debord and
Weekend, yeah, Godard. Godard. Est-ce que c'est des références que tu avais en tête?
Non, pas du tout. En fait. Comme le film effectivement permettait d'un point de vue d'histoire une multitude de choses, cinématographiquement c'était pareil, c'était un film très tentant d'être dans la référence, parce qu'on pense au road movie, moi j'aime bien dire que c'est un road movie à l'envers, donc il y a tout cet imaginaire du cinéma sur la route, tout ce cinéma avec ces grandes landscapes comme ça, et donc c'était très tentant. D'avoir des références, donc très vite en fait avec la chef opératrice Agnès Godard on s'est interdit les références cinématographiques, donc on a cité aucun réalisateur. Alors de temps en temps pour certains plans, par exemple il y a un plan à un moment donné dans le film où elle met les boules caisses dans l'oreille du petit garçon, et en fait elle pensait à un plan de La Nuit du Chasseur par exemple, mais sinon vraiment on s'interdisait les références cinématographiques. Donc par exemple Weekend, j'y ai même pas pensé, pourtant j'adore Godard, il est suisse, à moitié suisse comme moi d'ailleurs, et donc c'est quelqu'un qui était dans mon imaginaire, dans ma culture cinématographique très tôt. Mais c'est vrai que non, moi j'ai plus pensé dans l'écriture à des films, j'ai pensé par exemple aux Oiseaux d'Alfred Hitchcock, ça veut dire des films qui commencent de façon très légère et qui finissent en film d'horreur. Voilà, j'avais besoin de me dire par exemple, le premier oiseau dans le film d'Hitchcock qui attaque, c'est comme la première voiture. C'est pas très impressionnant. On se dit, ah oui, bon, la première voiture, je l'ai filmée de façon hyper dédramatique. Voilà, j'étais pas sur l'autoroute à filmer au loin la voiture qui approche. Pas du tout. Elle passe en arrière-plan très vite. Elle est bleue. Elle dure une seconde à l'écran, même pas. Et l'attaque des oiseaux dans le film d'Alfred Hitchcock, je me suis dit, ça va être les départs en vacances, ça va être l'horreur, quoi. Et c'est vrai que même d'ailleurs, dans Les Oiseaux, à la fin, ils s'enferment contre les attaques des oiseaux, quoi. Donc j'ai plus pensé par rapport à l'écriture, juste à l'écriture, à des films construits comme... ou un film de Gus Van Sant qui s'appelle Jerry, qui sont des films très radicaux. Et je me disais, on peut faire un cinéma avec très peu. Et c'est justement... par rapport à ce que vous me disiez tout à l'heure, la peur de tomber dans énormément de petits détails, ben justement, je voyais des films très radicaux, ben comme le Septième Continent aussi, ou Jerry. C'est des films vraiment qui ont une ligne et qui s'y tiennent. Et je pensais plus à l'écriture, à des films, mais plus sur la radicalité de l'écriture. Mais sinon, d'un point de vue visuel, j'ai travaillé en rapport avec des photographes comme Jeff Wall ou d'autres photographes, ou le peintre Hopper. Donc plutôt quelque chose d'assez américain. J'ai été nourrie plutôt par des images américaines, mais dans un film qui est quand même très européen. Ça va ? Je peux t'aider après.
Non,
hein,
non,
si
non
tu
ça veux. Va. So it was really tempting to have a lot of references. You know, my subject in the first place, in any case, allowed for a lot of things to happen and to be written. I like to think of it as a reversed road movie, you know. You know, the road movies, you always have this idea of large and gorgeous landscapes around them. So I had this in mind, and it comes with a lot of, you know, film history. But my cinematographer and I, Agnès Godard, we forbade ourselves for too much referencing. You know, perhaps that scene where she puts the earplugs in a kid's ears, she was thinking of a scene from Night of a Hunter. But that's really, like, we weren't thinking of other movies all the time like that. An important reference that I like, that you can compare my film to, is Hitchcock's The Birds. You know, because it's a kind of film that starts pretty on a light mood and then turns into a horror movie. I made on purpose the scene where the first car appears on the road, absolutely non-dramatic. And then the first day of the holidays, where all of them suddenly appear and fill the road, it's the real invasion. This is where you enter the horror genre. you know, you were talking about avoiding too many details, and I had in mind other films like, you know, Gus Van Sant's Jerry, and also Haneke's The Seventh Continent, where it's really films that have one main theme or obsession and they stick to it. I liked it very much, that you can really do something pretty radical and just, you know, and that I had in mind in my writing process, actually, to do something radical and follow one idea. In terms of the image, then I had other things in mind, such as Jeff Wall and Dennis Hopper, where, you know, they have these fundamentally American landscapes, and what I was trying is to both having them as a reference, but also crossing that imagery to a European landscape.
Well, thank you both so much for your time. It was great talking with you. Thank you.
Thank you.
Upon the earth, scour the universe, you know. Set my compass north, circumscribe the earth and go. No direction home.